Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous parlons aujourd'hui du champ international des droits de l'homme et de ses dilemmes pratiques, en compagnie de Françoise Imray, qui publie chez Plon un petit livre inspirant et émouvant, intitulé « J'ai vu partout le même visage, un ambassadeur face à la barbarie du monde ». C'est un témoignage, en une dizaine de chapitres, de votre expérience, Françoise Imray, d'ambassadeur des droits de l'homme, ambassadeur de France pour les droits de l'homme, et vous y partagez des scènes vécues, des rencontres, des anecdotes, des moments poignants, des efforts échoués ou réussis au service de la défense des droits de l'homme. Françoise Imray, bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir au bénéfice du doute.
Bonjour.
Vous êtes donc, je le disais, aujourd'hui ambassadeur de France au Danemark. Vous avez été en poste pendant plusieurs années ambassadeur aux droits de l'homme. Et auparavant, vous étiez avocat, vous êtes un militant des droits de l'homme de très longue date, un militant de la paix aussi au Proche-Orient. Vous avez été élu local, député européen, toute une expérience qui s'est cristallisée sur une scène très marquante pour vous, puisqu'on vous a vu dans l'actualité médiatique il y a un peu plus d'un an, au moment de l'attentat de Copenhague, où vous avez été visé dans ce débat sur la liberté d'expression et le blasphème. Cet attentat de Copenhague, c'est lui qui démarre votre réflexion dans ce livre, « J'ai vu partout le même visage ». Est-ce que vous y voyez une cohérence profonde dans ce parcours au service des droits de l'homme ?
Quand j'ai vécu chaque étape de ce parcours, je n'avais le sentiment que de vivre des moments discontinus et la cohérence ne m'apparaissait pas évidente. Et c'est dans le recul qu'aujourd'hui elle m'apparaît de façon très limpide. J'avais le sentiment de vivre des vies différentes, parfois parallèles, très différentes, celles d'avocats, de diplomates, de parlementaires. Et au fond, avec le recul, et quand on vit ce que j'ai vécu, c'est tout le rapport à la vie qui est évidemment changé. Le sentiment évidemment de sa brièveté, qu'elle peut s'interrompre à tout moment. Et puis, c'est dans ces moments-là qu'on jette un regard rétrospectif. Et oui, je me suis rendu compte à quel point, au fond, dans ces étapes si différentes, il y avait un lien aussi continu. Et ce lien, c'est cet attachement à la défense des droits de l'homme qui s'enracine finalement assez loin dans mon histoire personnelle et dans mon éducation.
Oui, c'est le Cambodge qui vous a formé, racontez-vous dans ce livre.
C'est le Cambodge et puis
le Cambodge des Khmer Rouges.
Oui, c'est le Cambodge, bien sûr, qui a été vraiment une très grande passion pour moi, totale, et qui l'est toujours. Mais avant le Cambodge, il y a eu une éducation, somme toute assez sommaire, mais où je crois c'est gravé l'essentiel. Un peu comme dans Rosebud de Citizen Kane, vous savez, il y a des phrases qui restent marquées comme ça. Et
Sauf que personne ne sait jamais ce que ça signifie, Rosebud, donc c'est pas forcément un très bon exemple.
Oui, mais c'est avec le temps, avec le recul qu'on comprend ce que ça signifie. Et il y a une phrase qui s'est gravée comme ça, c'est, pour moi, c'est « l'indifférence est un crime sans pardon ». Et j'appartiens à cette génération qui a été élevée dans le souvenir de la Shoah et dans l'idée que cela ne devait plus jamais se reproduire. Et j'apprends quand j'ai 16-17 ans que non seulement que cela s'est reproduit au Cambodge, un génocide, mais que ça s'est reproduit dans l'ignorance du monde et au moment même où on m'enseignait plus jamais cela. Au moment où on me disait plus jamais cela, cela advenait. Et donc ça m'a énormément troublé et ça m'a poussé à m'engager à cette époque-là.
Alors, diplomatie et droits de l'homme, puisque c'est toute l'ambiguïté et la force de la fonction que vous avez remplie et dont vous témoignez dans ce livre, « J'ai vu partout le même visage », ça pose évidemment un certain nombre de questions, de dilemmes pratiques sur le terrain dont je voudrais qu'on reparle ensemble. Mais d'abord, une impression de lectrice, si vous permettez. Cette série de chapitres qui sont des témoignages, des anecdotes, des scènes parfois extrêmement émouvante, dans lesquelles vous rendez hommage à tous ces militants des droits de l'homme que vous avez croisés sur votre chemin au fil de tous ces voyages en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, un peu partout en réalité. Vous avez vraiment voyagé dans le monde entier. Et dans le monde entier, dites-vous, vous rencontrez la même souffrance et la même réaction humaine aux violations des droits de l'homme. Alors ce qui nous marque, je dirais, comme lecteur, à la lecture de votre livre, c'est ce décalage entre cette topographie du malheur, hein, c'est votre expression, cette cartographie des droits de l'homme et de leurs violations, telle qu'elle apparaît dans ce livre, et la cartographie médiatique des droits de l'homme, dans laquelle certains continents, certaines toutes petites régions du monde sont surreprésentées, occupent toute la place, et d'autres, au contraire, sont complètement négligées. Françoise Imbray, comment est-ce que vous réagissez face à ce décalage qui, parfois, est une source d'injustice majeure ?
Bien sûr. C'est un décalage très surprenant, parce qu'on vit à l'époque de la société de l'information, où on est censé tout savoir, avoir avec des moyens de communication dont l'humanité n'a jamais disposé, des smartphones qui sont reliés eux-mêmes à des satellites, qui devraient vous donner une vision juste et panoramique des réalités du monde. Et en même temps, quand on regarde la cartographie des droits de l'homme, c'est un peu comme, vous savez, ces cartes du Moyen-Âge qui sont déformées parce qu'il y a des îles bouffies parce qu'on les connaît, elles sont déjà explorées, et d'autres continents totalement atrophiés parce qu'ils sont des terrains incognita, des terres inconnues. Et donc, il y a ces zones de silence. Et le premier sentiment, c'est une révolte face à tous ces drames dont on ne parle pas. Et qu'il est impossible, qu'il reste à un niveau inframédiatique, de faire advenir à un niveau médiatique. Et dans des démocraties, nous vivons dans des démocraties d'opinion, où la diplomatie est un élément de la politique. Et la politique est mue par une demande exprimée par l'opinion publique, par une demande politique. Et lorsqu'il n'y a pas de connaissance par le public des réalités, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de mobilisation et il n'y a pas de réponse internationale. Donc j'ai vu des situations où il y avait des drames qui se déroulaient et avec une réponse internationale qui était très faible, tout simplement parce que on n'en rendait pas compte. Inversement, il y a des sujets qui sont battus et rebattus, très connus et qui reviennent en boucle et qui prennent, un peu comme dans une anamorphose, une place disproportionnée, au sens propre disproportionnée, c'est-à-dire hors de proportion, de leur réelle proportion, dans l'imaginaire, dans l'idée que le monde se fait de sa propre conflictualité. Autrement dit, c'est comme si les dirigeants du monde étaient des capitaines d'un navire qui avançaient avec des instruments faussés ou des cartes inexactes.
Oui, alors de ce point de vue-là, on a l'impression, en lisant votre livre, que on a quelque chose comme l'anti-Essel hein, sous les yeux. Je fais référence à ce petit livre de Stéphane Essel qui accordait une place tellement disproportionnée à la question de la Palestine qu'il en oubliait, qu'il en négligeait toute une série d'autres très graves violations des droits de l'homme dont pas un mot n'était prononcé. Et vous ne négligez pas la question de la Palestine, vous la mettez à sa place, elle occupe une place sur la carte des violations des droits de l'homme, mais pas toute la place. Et il faut aussi laisser de la place à d'autres causes. Et vous avez des pages poignantes sur les enfants esclaves en mer de Siam, hein, qu'on occupe, qu'on utilise pendant des mois à trier le poisson en fond de cale et qu'on jette à la mer à l'approche des côtes, ou sur les enfants albinos en Tanzanie, au Burundi. Des causes oubliées, des causes inaperçues. Et j'ai eu le sentiment que sur ces causes sur lesquelles l'action diplomatique n'est pas toujours très efficace, peut-être d'ailleurs en lien avec le manque de visibilité médiatique, eh bien, vous avez recouru au témoignage, à la puissance du témoignage pour donner une visibilité à cette cause. Est-ce que je me trompe, François Zemmour ?
Non, c'est vrai. D'abord, j'ai voulu rendre compte, j'ai voulu dire ce que j'avais vu. Vous savez, beaucoup de gens voient dans leur vie des choses terribles, et tout aussi terribles que celles que je raconte et que j'ai vues. Je pense que les médecins urgentistes, je pense que les infirmières dans les soins palliatifs, je pense aux reporters de guerre. Mais chacun peut se dire, moi j'aide, je fais quelque chose au quotidien. Je pousse un cri pour le reporter, j'aide le malade ou je porte secours à un blessé. Moi, je devais me taire. Je devais me taire et rapporter à mon administration ce que j'ai fait. avec bien sûr à la fois l'effet que cela peut produire, qui peut être grand, parce que quand on peut mettre en mouvement l'action de la diplomatie française, c'est un levier formidable pour les droits fondamentaux, mais parfois ça ne marche pas à tous les coups, parfois c'est on garde ça pour soi-même, et je n'ai pas voulu faire un livre sur nos succès, car des succès il y en a eu, je dois le dire, la conclusion de ce livre n'est pas du tout une conclusion d'impuissance générale. La diplomatie des droits de l'homme, ça existe. S'il y a aujourd'hui une justice internationale qui rend des jugements, qui enferme, qui capture et enferme des dictateurs dans le monde, elle n'est pas tombée du ciel. Elle existe parce qu'il y a un traité qui l'a décidé. Et ce traité, il a été porté, voulu, négocié, amendé, adopté par cette diplomatie des droits de l'homme, dans laquelle la France a joué un rôle très fort depuis des années, avec constance. Si on peut arrêter des gens pour des infractions, des violations des conventions sur la torture, sur les disparitions forcées, c'est parce que ces conventions existent, elles ne sont pas tombées du ciel, elles sont le fruit de cette diplomatie des droits de l'homme. Et il y a tous les jours des gens qui sont libérés par l'action discrète de nos diplomates. Mais ce n'est pas de ça que j'ai voulu parler. J'ai voulu parler justement de ce que je gardais pour moi, c'est-à-dire de ces sentiments d'impuissance, parfois, de frustration, de cas de conscience, pour lesquels on ne se félicitera pas, on ne publiera pas de communiqué, mais qu'on emporte avec soi. C'est ce témoignage-là. Et puis des gens extraordinaires que j'ai vus, à la fois, bien sûr, des victimes, des défenseurs des droits de l'homme, formidables, partout, sur tous les continents, des gens qui se battent et qui méritent tout notre soutien, souvent à main nue, qui prennent des risques insensés pour le faire. Des dictateurs aussi, car dans cette fonction singulière, celle d'ambassadeur en charge des droits de l'homme, on doit bien sûr être plus proche du terrain, rencontrer, toucher du doigt les réalités les plus crues, les souffrances humaines au plus proche des lieux de conflit, des prisons, des fosses communes, des camps de réfugiés, mais également on est en contact avec les dirigeants de régimes qui ne sont pas tous des régimes, loin de là, démocratiques. Et c'est intéressant aussi de leur parler.
Mais alors précisément, j'y vois deux questions éthiques. La première, c'est que qui dit diplomatie dit négociation, en particulier bilatérale, et transaction. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour l'individu que vous avez été à accepter de faire de ces principes intangibles, absolus, universels que sont les droits de l'homme, l'objet de marchandage, de transaction, de négociation? Et la deuxième question qui me vient en vous entendant mentionner tous ces militants des droits de l'homme qui payent un prix très lourd et parfois risquent leur vie ou la donnent en défense de ces causes de droits de l'homme, est-ce que quand on arrive avec la carte de visite ambassadeur de France pour les droits de l'homme, est-ce qu'on arrive en tant que Français et horizontal, est-ce qu'on leur rend service à les soutenir, est-ce que c'est un atout? Ou est-ce qu'on les handicape en faisant peser sur leur cause le poids ou le stigmate de l'occidentalité?
Vous avez raison, c'est extrêmement sensible. Alors c'est un atout parce qu'on a derrière soi une diplomatie qui est présente partout, qui est respectée et qui, dans le monde, a quand même une qualité d'écoute qui est remarquable. Et ça, il faut le dire. Peu de pays sont autant écoutés que la France. Il y en a quelques-uns, des pays qui sont un peu des meneurs. On le sent dans les salles, vous savez, on le sent dans ces enceintes aux Nations Unies, à Genève, à New York. Quand c'est le tour de la France, eh bien, il y a une qualité d'écoute singulière. Donc de ce point de vue-là, on a un levier qui est très fort. Mais attention, vous avez tout à fait raison, en même temps, la pire chose qui puisse arriver, c'est de donner le sentiment qu'on va donner des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme aux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'ai été nommé ambassadeur en charge des droits de l'homme, j'avais demandé à ne pas utiliser l'expression « la France, pays des droits de l'homme ». J'aime pas cette expression. Je l'utilise pas. Pourquoi ? D'abord parce que les droits de l'homme sont invoqués partout. Ils ont été théorisés un peu partout aussi, pas seulement en France. Ils sont par nature universels, c'est-à-dire que partout dans le monde s'exprime cette aspiration aux droits fondamentaux. Et dans l'histoire, bien d'autres que nous ont contribué à l'édification des droits fondamentaux. Premièrement. Deuxièmement, parce que ça donnerait le sentiment qu'on demande aux autres d'accomplir des efforts dont que nous n'accomplissons pas forcément sur notre propre sol. Et vous voyez, nous sommes de temps en temps condamnés par la situation de nos prisons et par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces condamnations nous sont utiles d'ailleurs, parce que c'est elles qui nous font progresser, à la fois dans le système carcéral, dans l'amélioration de notre procédure pénale, la réforme de la garde à vue, tout ça, ça part de condamnation d'un regard exigeant des instances qui s'occupent des droits de l'homme sur la France et qui parfois nous condamnent. Donc on est loin d'être parfait. Si on arrive en disant « c'est nous la France, on va vous donner des leçons », c'est cuit. Et c'est cuit en particulier pour les personnes qu'on veut défendre. Donc oui, il faut y aller de façon extrêmement prudente. Et puis il y a bien sûr ce procès permanent qui nous est intenté, de façon plus ou moins explicite, que les droits de l'homme seraient un concept occidental inventé pour coloniser idéologiquement le reste du monde. Et c'est à cela aussi que j'ai voulu tordre le cou. Ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour l'universalité des droits de l'homme. L'universalité chère notamment à René Cassin. Le vrai anti-SL, c'est lui. C'est René Cassin.
René Cassin, fondateur d'ailleurs de l'Alliance israélite universelle.
Oui, et ce n'est pas un hasard s'il était à la fois l'auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le président de l'Alliance israélite universelle pendant longtemps. Parce qu'au fond, ce sont les mêmes valeurs qui sont véhiculées dans l'un et l'autre cas. Donc oui, y aller de façon très, très, très prudente, parce que parfois, on nous fait, c'est tellement facile de dire à la France vous êtes dans une démarche coloniale. Et ça, je pense que je raconte d'ailleurs un incident dans un pays d'Afrique où on m'avait prévenu, d'ailleurs, on m'avait dit attention, les gens sont très très sensibles sur les questions d'homosexualité. Vous savez, l'homosexualité, c'est un crime dans 70 pays et un crime puni de mort dans 9 pays. Donc la dépénalisation de l'homosexualité, c'est un des combats dans lesquels la France est engagée dans le monde. Mais on m'avait dit, attention, dans ce pays, il faut vraiment faire attention, les gens sont très très sensibles, donc n'évoquez pas ça publiquement. Bon, je me suis gardé de l'évoquer publiquement. Et puis est venue une réunion avec des défenseurs des droits de l'homme, la commission des droits de l'homme du Parlement. Et là, dresse une liste de sujets qui m'amenaient dans ce pays. Et dans cette liste, il y a évidemment la répression sauvage contre des homosexuels dont certains ont été tués depuis, ceux que j'avais soutenus. Et là, la présidente de cette commission des droits de l'homme se lève et m'interrompt et elle dit « L'homosexualité est un crime contre la race humaine, c'est un crime contre l'humanité et il y en a assez d'essayer de nous coloniser nos esprits de cette façon-là, de pervertir les esprits africains. » J'ai repris la parole pour lui dire « Écoutez, il y a une chose, évidemment je suis en désaccord total avec ce que vous dites, mais une chose aussi que je ne peux pas vous laisser dire, c'est précisément que l'homosexualité serait que les droits de l'homme en général et la défense des droits des homosexuels seraient l'apanage d'une vision occidentale du monde. C'est au contraire le tabou de la sexualité qui a été importé par les différentes colonisations, c'est-à-dire chrétiennes et islamiques. Et au fond, ce tabou de la sexualité qui s'exprime par votre bouche, c'est un point de vue colonial. Donc ici, c'est vous qui exprimez un point de vue colonial, alors que les sociétés traditionnelles étaient beaucoup plus à l'aise sur ces questions-là.
Oui, alors, la question de l'universel dans les droits de l'homme, elle se retrouve par l'objection de l'occidentalité et elle se retrouve aussi dans cette négociation multilatérale, dans les instances consacrées aux droits de l'homme, à l'ONU par exemple, le Conseil des droits de l'homme, qui nous donne l'impression, à nous observateurs extérieurs, de partir complètement à la dérive ces dernières années. Alors peut-être parce qu'on ne nous raconte que les excès et les abus les plus explicites, mais quand on apprend que l'Arabie Saoudite, la Libye, Cuba, la Syrie siègent au Conseil des droits de l'homme il y a quelques années, on est évidemment interloqué, et c'est peu de le dire. Comment est-ce que vous analysez finalement cette dérive des institutions multilatérales qui ont été conçues par les René Cassin et autres au départ pour servir la cause des droits de l'homme et qui ont été captées, phagocytées par les pires adversaires aujourd'hui des droits de l'homme?
Elles ne l'ont pas été totalement. Je ne suis pas sûr que le terme de dérive soit approprié d'ailleurs. Il y a des fautes, il y a des errements. Mais je ne dirais pas qu'il y ait une dérive permanente, parce qu'il y a aussi et vous l'avez très bien suggéré dans votre question, On parle des choses qui sont les plus choquantes et pas de ce qui est fait de positif et qui existe aussi. Je crois que c'est un monde en construction qui est extrêmement imparfait, qui est le reflet du monde tel qu'il est, qui est par conséquent extrêmement choquant, mais auquel il ne faut pas renoncer d'apporter sa pierre. Je crois que rien ne serait pire que de faire la chaise vide, car ces instances multilatérales, les Nations Unies, Genève, New York, sont effectivement loin d'être parfaites. Il y a des situations, vous l'avez dit, qui peuvent être extrêmement choquantes au plan des principes, mais au fond, elles existent. Elles existent et elles sont le reflet institutionnel du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et les combats d'idées, les combats de valeurs, les combats de principes, c'est là qu'il faut les mener. Et vous savez, je pourrais le dire autrement. Je pense qu'il faut condamner les violations des droits fondamentaux commises par ces institutions ou les errements de ces institutions au nom des valeurs de ces institutions, au nom des valeurs des Nations Unies. Et il ne faut pas condamner les Nations Unies au nom de ces errements. Donc c'est très important de se rappeler la charte des Nations Unies et de rappeler les membres des Nations Unies au respect de cette charte. Je pense que c'est un lieu, encore une fois, très difficile. C'est là où c'est la ligne de front du combat pour l'universalité des droits de l'homme. C'est là que se mène un combat, par exemple, pour la liberté de conscience, contre la diffamation des religions, qui est cette tentative d'inscrire dans l'ordre juridique international le blasphème. C'est un combat qui se mène pied à pied par des diplomates, trop souvent dans la discrétion. Les médias ne s'intéressent pas, et pourtant c'est un combat très très intéressant, et qui est vraiment un combat de société globale. Mais oui, bien sûr, c'est choquant qu'il y ait des membres dont on se demande ce qu'ils ont à faire là. C'est évidemment très choquant. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on claque la porte? Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autres Nations Unies, il n'y a pas d'autres planètes non plus. Donc c'est notre monde. Et c'est ici que doit se mener ce combat d'idées.
J'ajouterai un autre argument, Françoise Imray, quand vous mentionnez la diffamation des religions, donc c'est une affaire qui a déjà une dizaine d'années aux Nations Unies, mais qu'on a vu resurgir tout récemment sur la scène française, les attentats contre le blasphème qui nous arrivent ici bien et sûr Maintenant dans nos pays occidentaux. C'est une affaire qui est discutée, qui est en débat au Conseil des droits de l'homme et à l'ONU depuis plus d'une dizaine d'années, notamment avec la conférence de Durban 2 à laquelle vous avez participé en 2009 à Genève. Autrement dit, si on avait peut-être investi davantage et pris davantage au sérieux ce qui se jouait sur la scène multilatérale, peut-être qu'on aurait pu transformer ce débat d'idées de manière à ce qu'il nous atteigne moins par ricochet aujourd'hui. Mais alors, quand vous mentionnez les chaises vides, bon, il s'agit d'Israël, il s'agit parfois des États-Unis, il s'agit aussi, d'une certaine manière, et sans leur jeter la pierre, deux organisations juives de défense des droits de l'homme qui n'osent plus s'exprimer sur ce sujet par peur d'être renvoyées systématiquement au conflit israélo-palestinien aussi.
Écoutez, si c'est le cas, c'est une anomalie, il me semble, parce que la relation entre le monde juif et les droits de l'homme, elle est vieille comme le monde juif, elle est vieille comme le monde. Et je pense que si le monde juif se séparait de cet univers, et encore une fois, René Cassin est l'incarnation, que les deux sont non seulement compatibles, mais l'un ne va pas sans l'autre, alors ce serait, je pense, une catastrophe. Il s'écarterait de sa propre finalité. Au fond, le juif parmi les nations, est-ce que le mot le plus important de cette expression n'est pas parmi? Donc il faut être parmi, il faut être au milieu, il faut être au Conseil des droits de l'homme, même s'il est choquant, il faut être aux Nations Unies, même si parfois c'est révoltant, il faut dire ce qu'on a à dire. Et il faut le faire convaincu qu'au fond on porte ni une voix juive, ni une voix occidentale, mais qu'on porte un combat qui est celui de toute l'humanité. Car au fond, le sens de cet ouvrage et le titre que je lui ai donné, j'ai vu partout le même visage, c'est qu'il n'y a pas deux façons de souffrir d'une violation des droits fondamentaux, de la douleur, de la torture, selon sa religion, sa latitude ou sa culture. Et que par conséquent, partout, ces droits sont invoqués avec la même vigueur.
Merci beaucoup Françoise Imret. Je rappelle donc le titre de votre livre, « J'ai vu partout le même visage, un ambassadeur face à la barbarie du monde » aux éditions Plon. Cette discussion sur droits de l'homme, diplomatie et judaïsme sera à poursuivre, donc on y reviendra. Merci à vous, bonne semaine à tous et je rappelle que cette émission peut être réécoutée en ligne sur le site radio-rcj.info et sur le site de l'Alliance Israélite Universelle. À la semaine prochaine.
C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.